France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Rebonjour Mathieu.
Rebonjour Marie Labourie, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale qui a porté les manifestations du 18 septembre dernier. Reportage à Vannes, dans le Morbihan, de Wafia Kenny. Des dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins spécialistes, dépassements en hausse de 5% par an hors inflation depuis 2019. Dans l'actualité internationale, un sommet européen à Copenhague dédié à la fois au soutien de l'UE à l'Ukraine et aux mesures que les 27 doivent prendre pour répondre à la guerre hybride imposée par Moscou. Et puis on lui doit d'avoir enclenché et puis alimenté notre réflexion quant à la place de l'homme dans la nature. La primatologue britannique Jane Goodall est décédée hier à l'âge de 91 ans. L'étude des grands singes, la défense de l'environnement, nous reviendrons sur son chemin avec Véronique Rebérotte. Invitée de notre édition, Julie Dubosc, chercheuse au CNRS en biologie du comportement et primatologie. Le courrier que le Premier ministre a envoyé hier aux chambres syndicales n'a ni fragilisé l'intersyndicale, ni rassuré les experts des partenaires sociaux. Il en ressort que Matignon explore la piste d'une reconsidération de la retraite des femmes, révision du mode de calcul de la pension des mères de famille, eu égard aux écarts de revenus. Sébastien Lecornu se dit à l'écoute de propositions concernant le pouvoir d'achat et autres urgences. Sur la justice fiscale, ce qu'on attend, c'est le numéro 2 de la CFDT qui parle, c'est des proposition qui explique comment on taxe les plus riches, les hauts patrimoines et les successeurs, enchaîne Yvan Ricordeau. En somme, il faut faire nombre afin de changer les choses, selon Sophie Binet de la CGT. C'est là toute l'ambition de cette journée de mobilisation. Prenons chemin de Vannes, dans le Morbihan, où le cortège a pris forme en milieu de matinée, un défilé suivi par Wafia Kenny.
Sur le parking de l'Intermarché, c'est plus un rassemblement qu'une manifestation. À proximité des banderoles CFDT et CGT, des clients se mêlent aux manifestants. Les discussions portent toujours et encore sur la réforme des retraites, quel que soit le Premier ministre en place, explique David, ouvrier du bâtiment.
Gouvernement ou pas gouvernement, quand on voit ce qu'ils nous font depuis quelques années, qu'ils soient là ou pas là, les problématiques, on les a toujours. De coût de la vie, les problématiques aussi qu'on porte depuis quelques mois maintenant sur la retraite et l'abrogation de cette loi.
Autre sujet d'inquiétude, la question des salaires et du pouvoir d'achat. Tristan, salarié dans l'hôtellerie.
Alors, il y a une augmentation des salaires, mais qui a été réduite parce qu'ils n'ont pas augmenté depuis des années. Donc ça s'est rattrapé rapidement. Et je vous dis, les heures supplémentaires sont toujours pas payées. Donc de dire effectivement qu'on augmente, mais si derrière ça vous restez au même niveau et classification toute votre vie, bah vous retrouvez, comme beaucoup de mes collègues, ils sont pratiquement à 1 200 € de retraite aujourd'hui. Voilà, la question est là. Hein.
Du côté des services publics, notamment dans la santé, on attend une augmentation des budgets via le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, bientôt discuté à l'Assemblée. Une urgence vitale, selon Anthony.
C'est aux députés aujourd'hui à qui je tire la sonnette d'alarme. On a besoin d'eux qui viennent, qui lâchent un peu leur bureau sur Paris ou leur truc et qui viennent un peu voir avec nous dans les hôpitaux. Moi, on les encourage à venir faire des vies ma vie avec nous là et ils vont comprendre ce que c'est le travail.
Parmi les manifestants, aucun n'a évoqué l'absence de gouvernement.
Reportage signé Wafia Kenny à Vannes, dans le Morbihan. Près de 250 cortèges sont prévus dans tout le pays à la faveur de cette deuxième journée convoquée par l'intersyndicale. Le projet de budget 2026 devrait être transmis dans la journée pour avis au Haut Conseil des Finances Publiques, organisme indépendant placé auprès de la Cour des Comptes. Un budget dont une charge, une ligne, questionne. Elle dimensionne les dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins spécialistes, dépassements qui ont franchi la barre des 4,3 milliards d'euros en 2024, en hausse de 5% par an hors inflation depuis 2019. À l'an dernier, le phénomène s'explique notamment par la progression du secteur 2, où les praticiens sont autorisés à fixer librement leurs tarifs.
700 € de reste à charge en moyenne pour une opération de prothèse de la hanche. Parfois, c'est même le double, car les dépassements d'honoraires sont à géométrie variable. Ils grimpent en flèche dans les grandes métropoles où la vie est chère et où les médecins qui s'installent choisissent pour la plupart le secteur 2, celui où l'on peut justement pratiquer ces dépassements d'honoraires, qui représentent aujourd'hui plus d'un tiers des revenus pour certains spécialistes. Et il y a des praticiens qui en abusent. 10% des chirurgiens facturent 3 fois le tarif de la sécurité sociale. Et ça coûte cher aux patients, surtout les plus âgés, qui payent 2 fois plus de dépassements que les plus jeunes. 40% seulement de ces frais supplémentaires sont pris en charge par les mutuelles. Les ménages les plus modestes, couverts par la complémentaire santé solidaire, ne sont a priori pas touchés par ces dépassements d'honoraires, mais dans les faits, ils ne font pas toujours valoir leurs droits.
Cet enjeu, comme bien d'autres, risque fort d'intéresser les membres de la Commission des affaires sociales ainsi que celle des affaires économiques, deux instances dont les bureaux sont en cours de renouvellement. L'Assemblée nationale compte 8 commissions permanentes. Résultat des votes en fin de journée.
C'est l'une de ces substances qui polluent et abîment les lacs, les rivières et les mers côtières. La France vient de demander à l'Union européenne d'en réduire drastiquement l'utilisation.
Il s'agit de l'octocrylène, en bonne dose dans les crèmes ou le maquillage qui se retrouve dans l'environnement via les eaux de baignade ou les douches. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et toutes.
C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui a instruit ce dossier, Tara, et qui montre qu'il est possible pour la filière cosmétique de supprimer cette substance.
Oui, la toxicité de l'octocrylène ne fait aucun doute. Les scientifiques l'analysent depuis 2012. Ce filtre UV est nocif pour l'écosystème marin, ses organismes vivants et même les sols. À noter que les industriels, tenus de fournir des données, n'ont toujours pas publié leurs résultats sur la mortalité de larves d'amphibiens, étude demandée pourtant en 2019. En tout cas, la substance est dangereuse. Présente jusqu'à 10% dans les cosmétiques, elle serait inoffensive à une concentration maximale de 0,001%. Autant dire à une dose où elle ne protégerait pas contre le soleil. Bref, il faut l'interdire dans ces produits, dit clairement l'ANSES, et c'est possible, affirme la directrice adjointe de la direction des sciences sociales, Karine Fior.
Nous avons évalué 2 scénarios possibles, un scénario avec un remplacement dans un horizon temporel de 2 ans et un scénario avec un horizon temporel de 5 ans. Et nous avons évalué les coûts associés pour remplacer et reformuler les produits avec d'autres filtres UV alternatifs. Et notre conclusion est que le temps de 2 ans serait probablement suffisant. Et par ailleurs, étant donné la santé financière du secteur des cosmétiques, nous estimons que les coûts seraient absorbables par les industriels.
Des coûts estimés à 354 millions d'euros pour toute la filière si l'octocrylène était remplacé en 2 ans par des alternatives. Une filière qui pesait 68 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Reste à convaincre, après l'Agence européenne des substances chimiques, la Commission européenne. L'interdiction n'est sans doute pas pour demain.
Tara Schlegel. La Croix-Rouge est contrainte de suspendre temporairement ses activités à Gazaville en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes, tout en avertissant que des dizaines de milliers de personnes restées sur place faisaient face à des conditions humanitaires effroyables. Gaza qui reste la destination, l'objectif d'une flottille qui a pris la mer dimanche de Barcelone et de Tunis. Seules 4 des 44 embarcations sont encore en route pour Gaza. Une flottille suivie depuis Ramallah par Amira Souilem.
Malgré les interceptions d'hier soir et de ce matin, ce participant se disait déterminé à continuer la route vers Gaza malgré tout.
Même si on a été sommé par l'armée israélienne de nous arrêter, nous, comme on est dans notre droit d'acheminer cette aide et de libre circulation en mer, on n'a pas répondu à cette sommation et on continue notre course. Tant que l'armée israélienne n'a pas pris possession de nos bateaux, nous, on va continuer jusqu'au bout à avancer vers Gaza.
Dans la nuit, la marine israélienne a intercepté un à un ces navires au bord desquels se trouvaient près de 500 participants issus de plus d'une quarantaine de pays. Ce matin, sur le site de la flottille qui permet de suivre l'avancée des bateaux en temps réel, seules 4 embarcations étaient indiquées comme mettant encore le cap sur Gaza. Israël a prévenu, tous les participants seront expulsés dans les heures à venir.
Nous, on est prêts à l'extérieur, dans le cockpit, avec nos gilets de sauvetage et prêts à jeter nos téléphones si on se fait aborder. Mais on est plutôt serein, on est préparé à ce qui arrive en tout cas.
Ces derniers jours, des Palestiniens de Gaza avaient multiplié la publication de vidéos et messages sur les réseaux sociaux. Ils y souhaitaient la bienvenue à ces militants du monde entier, voyant en eux une bouffée d'oxygène alors que les bombardements israéliens s'intensifient.
Cette nouvelle crise a nourri l'exaspération de milliers de personnes en Italie. L'Italie, dont les principaux syndicats appellent à la grève générale demain. Le ministre turc des Affaires étrangères accuse Israël, je cite, de commettre un acte de terrorisme. Fin de citation. Quatre personnes blessées ce matin dans une attaque à l'extérieur d'une synagogue à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, le jour de la fête de Kippour. La police dit avoir tiré sur le suspect. Le Premier ministre britannique Keir Starmer se dit horrifié par cette attaque.
Venons-en, Mathieu, à un sommet européen qui, un de plus, se souciera avant toute chose de la guerre en Ukraine.
Oui, et des débats qui portent sur les moyens à imaginer, à mettre en œuvre afin de consolider l'aide fournie à Kiev et la mise à l'abri, en quelque sorte, de l'Europe confrontée à une guerre hybride qui se manifeste par de multiples incursions russes dans le ciel européen et le survol de mystérieux drones, y compris au-dessus de Copenhague. C'est vous, Fabien Cazot, qui suivez ce sommet. Bonjour.
Bonjour.
Fabien, la Russie peut violer l'espace européen n'importe où en Europe, a averti dès l'ouverture de ce sommet Volodymyr Zelensky.
Absolument, et le président ukrainien qui participe donc à cette réunion en ce moment même avec ses homologues de l'Europe tout entière, il leur a fait une offre de service.
Comme vous le savez, l'Ukraine sait comment détecter et abattre les drones. Nous venons de déployer une mission ici et nous sommes prêts à partager notre expérience avec vous, nos partenaires. Et ce n'est que le début, la première étape dans la construction d'un réel mur anti-drone qui protège toute l'Europe. Travaillons ensemble, si vous le voulez bien, sur des solutions coordonnées pour rendre cela possible.
Voilà, l'Union européenne le sait bien, elle ne pourra pas à elle seule affronter tous les défis. Elle a besoin de partenariats à l'extérieur de l'Union, avec le Royaume-Uni par exemple, première armée européenne et soutien de premier plan de l'Ukraine. Son premier ministre, Keir Starmer, est également à Copenhague aujourd'hui, ainsi que le patron de l'OTAN, Mark Rutte, véritable cheville ouvrière, l'OTAN des déploiements d'équipements militaires en Europe, notamment sur son front oriental, quand cette idée de mur anti-drone deviendra réalité.
Merci à vous, Fabien Cazot, à Copenhague, avec les moyens techniques de Benjamin Troncin.
Mathieu, la fin de ce journal est consacrée au décès de Jane Goodall à l'âge de 91 ans.
D'un bout à l'autre du vivant, Jane Goodall a résolument changé notre regard. Elle qui ne voulait pas être scientifique mais naturaliste, elle aurait été bien plus que tout cela. Bonjour Véronique Reberotte.
Bonjour.
Véronique, tout commence dans les années 60 auprès des chimpanzés au bord du lac Tanganyika, jusqu'à ses combats pour la défense de la biodiversité.
Alors, permettez-moi Mathieu, tout à l'heure vous avez dit Diane au lieu de Jeanne, c'était pas au micro, c'était hors micro. Diane pour Diane Fossey, l'autre primatologue, même élégance, même photo aussi, hein, avec main dans la main avec de grands singes. Diane Fossey, l'américaine, a consacré sa vie à l'étude du comportement des gorilles au Rwanda, où elle sera d'ailleurs assassinée. Et Jane Goodall, l'anglaise, à l'observation des chimpanzés. Mais les deux ont complètement révolutionné notre regard sur les grands singes, en les dotant d'intelligence et d'émotion, en les observant dans leur milieu naturel. À 26 ans, on est dans les années 60, Jane Goodall, autodidacte, elle n'a aucun bagage scientifique, elle va être missionnée pour observer les chimpanzés dans leur milieu naturel en Tanzanie. Elle se fait accepter dans l'univers des chimpanzés, à qui d'ailleurs elle donne des petits noms, et puis un jour elle observe que les chimpanzés utilisent des outils, en l'occurrence un brin d'herbe pour attraper des termites, des outils comme les humains, un anthropomorphisme critiquée immédiatement par ses pairs. Jane Goodall était l'invitée d'Aurélie Luneau l'an dernier sur France Culture, le magazine Cause à Effet. On l'écoute.
Mais heureusement, l'opinion publique commence à changer. En 1962, cela faisait deux ans que je passais mon temps à observer les chimpanzés. Je me suis rendue à l'université de Cambridge en Angleterre et ils m'ont dit que j'avais agi de travers. Je n'aurais pas dû donner des prénoms aux chimpanzés, mais des numéros. Je ne devais pas parler de leur personnalité, de leur esprit, de leurs émotions, parce que tout ça, c'était le propre de l'humain, m'a-t-on dit. Mais heureusement, j'ai appris dès l'enfance d'ailleurs que tout ça c'était complètement bidon, et j'ai appris en fait auprès de mon chien Rusty. Donc progressivement, la science a commencé à intégrer ces notions, à changer, mais tout cela partait de l'arrogance des humains, la conviction qu'ils ont d'être distincts du royaume, du règne animal. Et on est de plus en plus dissociés de la nature, on vit dans des réalités virtuelles.
Voilà, Jane Goodall, à 91 ans, est décédée tranquillement, elle, dans son lit. Elle voyageait encore beaucoup pour alerter sur le déclin de la biodiversité, la disparition aussi des chimpanzés, espèce aujourd'hui classée en danger de disparition.
Merci à vous, Véronique Reberotte. Et comme convenu, nous sommes en ligne avec Julie Dubosc, chercheuse au CNRS en biologie du comportement et primatologie. Bonjour, madame.
Bonjour.
Première question, qu'est-ce qu'elle représente pour la primatologie, Jane Goodall ? Une pionnière, on a envie de le dire, mais ce n'est pas un trésor de patience, de détermination ?
Tout à fait, vous avez mis les mots dessus. C'était une pionnière, une des pionnières dans sa façon d'appréhender ces sujets d'étude, comme on en parle en éthologie ou en étude du comportement animal. Parce qu'elle a eu, avec une patience incroyable, elle a été sûre et dans leur environnement, elle les a observés, elle a attendu de pouvoir les observer. Et donc, il y a eu, dans sa façon de faire, elle a été une des pionnières, avec notamment la primatologie japonaise aussi, qui considérait en fait que les individus avaient des personnalités, des émotions, avaient une culture et faisaient intégralement partie de leur environnement.
Vous nous dites que c'est pas tout à fait la première. Il y en a eu d'autres qu'elle ?
Alors, elle s'est inscrite en fait dans un mouvement qui, pour l'étude du comportement animal, a commencé au Japon dans les années 50, où des chercheurs aussi ont pris la patience d'observer les macaques japonais interagir de manière naturelle dans leur environnement. Et on inscrit ces individus dans leur environnement, dans leur groupe, et on leur a donné une personnalité et une culture. Et Jane Goodall s'inscrit totalement dans cette façon de faire et de voir le monde et de faire de la science.
La manière dont elle a pu émerger et s'imposer dans la recherche n'a pas été simple. Véronique Rubérot vient de le souligner, et elle-même, Jane Goodall, l'a dit. Et aujourd'hui, est-ce que son héritage est discuté par la recherche ?
Alors, son héritage en général, pas du tout. Elle a apporté d'immenses progrès dans la science, dans l'étude du comportement animal, dans l'étude des cultures animales et dans la défense de la biodiversité et de ces cultures animales. Ce qui a été un tout petit peu critiqué et remis en cause, c'était son anthropomorphisme intense, en fait.
Vous voulez dire quoi par là, qu'elle donnait des noms, des prénoms aux singes?
Alors, c'est très commun, et c'est pas ça qui a vraiment été remis en cause, c'était plus son lien très très intense et très émotionnel avec ses sujets d'études, entre guillemets, que des gens ont... les gens ont voulu prendre un peu de recul, en fait, avec ces liens très très intenses et très émotionnels, justement pour garder un peu d'objectivité scientifique, pour pouvoir dire, ben voilà, on a observé ça tant de fois, dans tel contexte, et on l'interprète comme ça. Voilà, c'est ça qui a été surtout remis en cause et ou contesté.
Je rappelle que vous êtes Julie Dubosc, chercheuse au CNRS en biologie du comportement et primatologie. Dans quel contexte elle fonde les instituts, Jane Goodall ?
Pardon, excusez-moi, j'ai pas...
Dans quel contexte fonde-t-elle les instituts, Jane Goodall ?
Ah, dans quel contexte ? Oui, alors c'est à la suite en fait de tout son parcours scientifique finalement, où elle a réalisé que il y avait un grand danger de la biodiversité suite à l'intensification des activités humaines. Elle s'est vraiment intéressée au fait que tout reposait sur l'éducation et la formation et le transfert de connaissances et l'empowerment en fait des populations et des jeunes locaux au contact de la nature pour la défense de la biodiversité. Et c'est dans ce contexte-là que les instituts et le programme Roots and Shoots ont été fondés.
Alors l'étude des grands singes, on l'a dit, la défense de l'environnement, est-ce que la primatologie au fond n'est pas le trait d'union rêvé en termes de recherche-action pour aller parcourir tous ces champs de l'étude, de l'observation jusqu'à l'icône qu'elle a été pour la défense de la biodiversité et le respect de l'environnement?
Oui, bien sûr. Alors, ça vient surtout du fait que les primates sont proches phylogénétiquement et au niveau évolution de l'humain. Et donc, forcément, ils représentent des espèces phares, des espèces parapluies, on appelle ça, qui font un trait d'union entre les humains et l'environnement. Mais tout ça fait partie en fait d'un monde où tout le monde est connecté et où devrait être faire partie de la nature et être respectueux en fait de la biodiversité et de la nature.
Merci à vous. Merci Julie Dubosc, chercheuse au CNRS en biologie du comportement et primatologie, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Loïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Je vous renvoie évidemment à Jeanne Goudal, Réconcilier l'humain et l'animal, entretien qu'elle a donné le 29 octobre 2024 à Aurélie Luneau sur France Culture dans l'émission de Cause à effet. Quelques mots de la météo avant de refermer ce journal. Soleil d'automne sur 80% du territoire, ciel nuageux près de la Manche, température maximale comprise entre 14 et 21 degrés. Cette édition a été réalisée par Alix Forgeau. Prochain journal de la rédaction ce soir à 18h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak.